nous retrouvons Malo Tison, notre reporter en service civique, pour un extrait de reportage sur l'exposition « Mourir, quelle histoire ». Ici, Edith Joseph, co-commissaire de l'exposition, explique les funérailles dans de multiples cultures.
Donc on va mettre le corps quelque part, on va le transporter, comme c'était le cas à la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e, par le biais d'un cortège funéraire avec un corps bizarre, on a un très bel exemple ici. Dans d'autres cultures, ça va être des chants, des danses, mais il y a toujours une idée de procession. Ensuite, on va atterrir au cimetière, on va arriver dans le cimetière ou dans un lieu où on va déposer le corps ou les cendres. Et on a voulu montrer comment ce cimetière était bavard, finalement. C'est un lieu éminemment vivant et incarné. Tous ces morts, j'aime bien le dire, sont d'anciens vivants. Donc tout ce que racontent leurs tombes ou leurs stèles funéraires ou les poteaux funéraires sont quelque chose qui raconte une histoire d'anciens vivants. On va porter le deuil, c'est le cas dans l'espace que vous avez derrière moi, où ça nous permet aussi de parler comment, justement, suite à la révolution industrielle, à l'émergence de la bourgeoisie, on a une vraie mode, entre guillemets, du vêtement de deuil, du bijou de deuil, de la façon dont les grandes bourgeoises pouvaient porter le deuil en noir et puis progressivement reprendre la couleur. Mais on trouve aussi chez des gens plus modestes des brassards qu'on porte, par exemple, chez les ouvriers. On porte souvent des brassards ou des femmes un foulard noir. Mais dans d'autres civilisations, on a des personnages qui réellement incarnent cette période de deuil, qu'on appelle les deuilleurs. Dans la seconde partie, on parle de la séparation. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne séparation avec son défunt? Que ce soit de façon, qu'on soit croyant ou non croyant, quelle symbolique on y applique? Dans beaucoup de cultures, et c'est le cas de la culture bretonne, c'est pour ça que je vous dis que c'est très intéressant de partir de la Bretagne, parce que la culture de la mort, du rituel, des us et coutumes vis-à-vis de la mort sont tellement foisonnantes qu'on peut avoir une accroche sur des tas d'autres cultures. On a un personnage, un passeur d'âme, c'est l'Ankou. L'Ankou, c'est l'auxiliaire de la mort pour faire passer les âmes du monde des vivants au monde des morts. Et bien, il se trouve que ce personnage, on le retrouve dans d'autres cultures. C'est pareil, en s'éloignant très très fort, en atterrissant en Indonésie, dans la population Asmat, on a des personnages comme le Korvar qui vont littéralement récupérer l'âme du mort pour ne pas qu'elle erre sur Terre. Et on ne récupère qu'une partie de l'âme. Parce que contrairement à nous, ce sont des gens qui pensent que l'âme est tripartite. Comme c'est le cas chez les Inuits, où on prend l'exemple du partage de l'âme avec les Inuits en présentant un petit peu comment se passe cette séparation. Mais pour se séparer, il faut aussi se figurer où est-ce que les gens se retrouvent, où est-ce que les personnes de notre entourage partie se retrouvent. Et là, c'est à l'image, en fait, je dirais, de la croyance de chacun, mais aussi de la représentation du monde de chaque culture. Quand on est dans une culture comme la nôtre, relativement linéaire, et si on s'intéresse à la chrétienté, enfin, en tout cas aux religions du livre, que sont les chrétiens, les musulmans et les juifs, on se retrouve soit en enfer, soit au paradis. Donc, c'est vraiment cette notion aussi d'arriver de son vivant à prendre le bon chemin. Et pour ça, c'est pour ça qu'on a des crânes, des représentations de vanité, parce que la vanité, depuis la Renaissance en Europe, elle est là pour rappeler le fait qu'il est vain de vivre dans la vanité, justement, puisque on est tous... rappelle-toi que tu... les memento mori, littéralement en latin, souviens-toi que tu vas mourir, est là pour rappeler à chacun de nous qu'en fait, il est inutile d'être vaniteux, puisqu'on aura tous, qu'on soit riche, pauvre, on aura tous la même destination. Ce qui n'est pas totalement vrai, parce que les personnes les plus riches sont quand même enterrées de façon beaucoup plus grandiose et à l'aide de monuments, enfin en tout cas de la culture matérielle est beaucoup plus riche aussi dans la mort que dans la vie. Et puis, on a cette notion d'autre monde. Alors nous, on parle d'au-delà. C'est le cas à paradis, enfer, on est dans l'au-delà. Mais si on s'intéresse à des cultures comme la culture bouddhique ou hindouiste, on est plutôt dans une idée de cycle. L'au-delà n'est pas un état permanent. On peut aller temporairement en enfer ou au paradis. Alors il n'y a pas de notion de paradis chez les bouddhistes. On peut dire qu'on peut temporairement être puni, aller dans un enfer, et puis de toute façon, on finira par reprendre son cycle de vie, se réincarner. La vraie punition, elle est dans le fait de mal se réincarner. voyez ? C'est pour ça que dans ces croyances cycliques, il n'y a pas de notion... La mort n'est pas l'inverse de la vie. Elle est l'inverse de la naissance. La vie, c'est autre chose. La vie, c'est le cycle des vies qu'on va connaître. Et l'enjeu, c'est de bien se réincarner. Et quand on atteint ce qu'on appelle le nirvana, d'ailleurs, le Bouddha, ce n'est pas un Bouddha, c'est pas le nom de quelqu'un. Un Bouddha s'appelait Siddhartha Gautama. Et l'état de Bouddha, c'est l'état d'éveillé. Il faut atteindre la bodhi, l'éveil, pour sortir du cycle de réincarnation. Et on appelle ça le Maha Pari Nirvana, la grande totale extinction. C'est finalement quand on arrive à sortir de son cycle de vie qu'on a atteint la félicité, quand on est bouddhiste. Et puis, juste un dernier exemple, qui est pour le coup, tout comme on a envie de parler des Inuits pour parler de la séparation des âmes, un exemple qui est pour le coup très éloigné du nôtre, pour cette histoire de représentation du monde des au-delà, on avait envie de parler des aborigènes. Parce qu'en Australie, Tchukurpa, le temps du rêve, ou le dreaming en anglais, c'est un temps où elle n'est ni passé, ni présent, ni futur. C'est-à-dire que quand vous êtes aborigène, vous portez le rêve d'un ancêtre, par tradition ancestrale. Rêver, c'est pas quelque chose d'onirique. Rêver, c'est que cette création est toujours active, que dans les temps anciens, un ancêtre a créé une partie du vivant et que vous, par votre action, par la perpétuation du récit de ce rêve, alors chez les artistes, ça se traduit par des tableaux qui sont de plus en plus connus et qui sont magnifiques, vous représentez un territoire, le territoire de Tchukurpa, le territoire du temps du rêve, qui est toujours ici et maintenant. Et lors d'une mort, c'est pour ça que je vous parlais de ça tout à l'heure, chez les aborigènes, les morts vont sous la terre, vont dans le sol, retournent à des éléments naturels, une pierre, un trou d'eau, mais aussi une plante, un animal. Et c'est vrai, une notion d'en deçà pour revenir à Tchukurpa, revenir au temps du rêve.